consacré du temps à convaincre Guylaine Tremblay ou une vedette bien connue, c'est le plus souvent notre première idée quand on veut donner de la visibilité à notre campagne ou à notre organisme. Mais est-ce que ces personnes sont nos meilleurs ambassadeurs? C'est une bonne question. Et avec nous pour y répondre, notre chroniqueuse philanthropie, Jacinthe Roy, directrice générale de l'Association des professionnels en gestion philanthropique. Bonjour, Jacinthe Roy.
Bonjour,
besoin recette,
ça va bien?
Oui, OK, donc bonjour Jacinthe. Mais vous êtes d'accord quand même avec moi, avec ma présentation. C'est qui nos meilleurs ambassadeurs au fond?
Bien, en fait, je pense que lorsque vous aviez parlé, Benoît, là, d'une personnalité publique, je pense que tout d'abord et en tout, c'est qu'on va rêver tous hein, d'avoir un Guy Lepage, d'avoir une Véronique Cloutier comme porte-parole, mais on sait que c'est pas toujours accessible. Et puis, pour faire croître sa notoriété, finalement, on doit avoir accès à des ressources qu'on a tout près de nous, des ressources incroyables, puis c'est nos ambassadeurs.
Ah, donc, c'est quoi exactement alors un ambassadeur?
Un ambassadeur, en fait, là, ça va être une personne qui est près de nous et qui embrasse notre cause avec passion. Et ça n'a pas besoin d'être une personnalité publique pour véhiculer notre message, mais je pense que ça vaut la peine d'identifier dans nos cercles rapprochés, c'est qui parmi les parties prenantes là, qui pourrait mieux nous représenter. Puis pour parler de parties prenantes et de meilleurs ambassadeurs, là, j'aime bien utiliser l'analogie là, des sillons là, d'une pierre qu'on va lancer dans l'eau.
Okay.
Donc, là, quand on lance la pierre, on voit une première vague qui est très, très proche. Alors ça va être les personnes qui sont les plus proches de nous et qui connaissent le mieux notre cause.
Ouais.
On parle de notre conseil d'administration, nos employés, qu'on oublie souvent, mais les employés, les bénéficiaires, les bénévoles et même les donateurs majeurs, là, ceux qui donnent des dons plus substantiels. Alors, ces personnes-là qui figurent parmi les ambassadeurs les plus proches qui pourraient servir notre cause.
Et comment on les choisit dans ces sillons-là? Là, comment on va choisir les ambassadeurs?
Ben, en fait, ils sont déjà proches.
Ouais.
Donc, à partir d'un moment où on les connaît aussi souvent, mais ils sont touchés par la cause et ils veulent faire grandir cette cause-là.
Mm-hmm.
Donc, c'est sûr que quand on regarde proche de nous, on va risquer d'en identifier des ambassadeurs gagnants, si vous voulez, là, qui vont vouloir parler encore plus de ce qu'ils font auprès de notre cause.
Bien sûr.
Ils sont impliqués. On voit aussi dans un deuxième sillon, on peut parler bien sûr des donateurs qui nous donnent de façon récurrente. Ça peut être des petits montants. On ne pense pas à des donateurs très, très, très qui donnent en des montants incroyables, mais la générosité, c'est d'un don qui revient de façon récurrente à tous les mois, chaque année, que ce soit un petit don ou un grand don.
Donc, c'est la constance du don qui nous permet d'identifier l'engagement. Ouais.
Exactement. Et on dit, si la personne nous donne depuis 10 ans 25 $ par année, c'est qu'à quelque part, elle pose le geste et puis elle a la cause à cœur.
Bien sûr.
On peut penser à nos fournisseurs aussi. Hein. Des fois, on les oublie, les fournisseurs, mais ils sont souvent proches de nous. Dans un sillon un peu plus grand, bien sûr, on va vouloir viser le grand public en général, hein, parce que qui ne rêve pas d'être connu de tous? Mais là, je pense que si on met tous nos efforts sur cet intérêt à être connu du grand public, on risque de connaître un peu des échecs là, par rapport à la croissance de notre notoriété. Mieux vaut commencer près de nous que de viser trop large dès le départ.
Donc, ça veut dire qu'on peut toucher autre chose que le grand public. On peut toucher des groupes, disons, de la société ou peut-être des donateurs potentiels, des choses comme ça?
Exactement.
Okay.
Si on identifie 3-4 ambassadeurs là, qui sont vraiment très près de nous et puis qui ont la cause à cœur, ces 3-4 personnes-là, puis là, on va sortir des médias traditionnels, là, parce que c'est pas tout le monde qui va aller à Tout le monde en parle et avoir un auditoire, accès à un auditoire d'un million de personnes.
Ah oui?
Mais, okay. Non, j'aimerais bien un jour peut-être.
Hein? Non, on va y arriver.
On va y arriver. Et mais, alors, avec les médias sociaux, les médias non traditionnels, un ambassadeur qui parle à 100 amis de ce qu'il fait, qui parle avec son cœur, hein,
oui.
Ce qui va être important. Là, on fait pas du marketing pur. Là, on parle de quelqu'un qui va faire un storytelling, qui va nous expliquer ce qu'il fait, pourquoi il le fait.
Oui, qui va raconter une histoire. Oui, c'est ça.
Exactement. Exactement. Et l'ambassadeur qui touche 100 personnes, et sur ces 100 personnes-là, il y en a peut-être 100 qui vont dire « Wow, moi, j'ai envie d'embarquer, puis je vais partager le message. » Alors là, on vient de décupler notre message sans avoir fait de trop grands efforts.
Et vous en parlez, vous l'avez déjà un peu annoncé. Là. Qu'est-ce qu'il fera, cet ambassadeur-là? C'est quoi ses rôles exacts?
Oui, on peut lui attribuer plusieurs rôles. C'est celui de porte-parole, c'est ce qu'on vient de discuter dans le fond, c'est de parler de pourquoi il s'implique, pourquoi il est proche de la cause. Donc là, les porte-paroles, on peut en avoir à différents niveaux, mm-hmm. mais c'est important d'avoir des gens qui vont parler de nous.
Oui.
Ensuite de ça, on peut leur donner aussi le rôle de collecteur de fonds. Fait que là, on parle des ambassadeurs, par exemple, qui, on le voit de plus en plus, là, qui participent dans un défi sportif, une activité qu'on appelle peer-to-peer, donc personne à personne. Et puis l'ambassadeur va solliciter des dons auprès de 10 de ses amis.
Oui.
Et ces 10 personnes-là vont en parler et en parler et en parler.
OK. Donc, ça peut être vraiment autour de soi, ces personnes-là. Comme dans ces exemples de collecte de fonds-là, vont motiver ou faire la promotion autour de leur secte très proche.
Exactement. Et puis, ce qui est la beauté de la chose, c'est que c'est notre message, justement, s'il est bien ficelé, s'il est bien attaché aussi à ce qu'on fait et qu'on est capable de démontrer nos impacts, alors notre message voyage.
Oui.
Rapidement et facilement.
Et efficacement peut-être même. Avant qu'on se quitte, ce serait quoi les pièges à éviter, Jacinthe?
Oui, ben en fait, le premier piège, là, c'est ne pas avoir de plan de match si on se lance dans une campagne d'ambassadeur, quel que soit l'objectif. Si on n'est pas précis dans les demandes qu'on va faire à nos ambassadeurs, il est clair que l'ambassadeur ne va pas s'activer ou va perdre l'intérêt.
Okay.
Et puis ça, c'est le deuxième piège aussi, c'est de prendre pour acquis que nos ambassadeurs vont s'activer seuls.
Mm-hmm.
Alors, c'est faux, il faut les accompagner, même s'ils aiment beaucoup la cause. Si on ne leur donne pas le message, si on ne leur donne pas les outils de communication et surtout si on ne les écoute pas pour ajuster, nous, notre plan de match, parce qu'un plan de match théorique, un coup qui arrive dans la réalité, la théorie, des fois, prend le bord et puis on s'adapte. Donc, il faut les écouter pour s'adapter, nous, à ce qui se fait. Et bien sûr, le troisième piège, ça va être de ne pas remercier et de ne pas reconnaître.
Ah, c'est si important. Il faut reconnaître les bénévoles, les ambassadeurs. C'est un beau mot de la fin. Merci, Jacinthe Roy, directrice générale de l'APGP.
Au plaisir.
À bientôt.
Bonne journée.